Et tout de suite, voilà, on est toujours en direct avec Michel. Michel, bonjour.
Bonjour Joël.
Et juste avant que vous commenciez la chronique, c'est vrai qu'avec une 73e chronique, vous en avez vu passer également des stagiaires.
Hein. Oui, pas mal. C'est, voilà. C'est assez vivant sur Odo Radio. À chaque fois qu'on arrive dans les locaux, on ne sait pas combien et qui on va voir, parce que ça change quand même assez souvent, mais voilà, c'est toujours des équipes jeunes et dynamiques.
Voilà, c'est la relève qui arrive, motivée plus que jamais, et même si avec cette crise sanitaire, voilà, c'est pas toujours simple. Alors Michel, tout de suite, eh bien, vous allez vous lancer sur votre chronique astro, on rappellera, hein, pour vous redire quelques mots sur le site Constellations et Galaxies, bon, où on peut trouver toutes les chroniques, mais là, tout de suite, eh bien, vous allez nous parler de l'actualité donc, et notamment quelques nouvelles des projets astronautiques.
Voilà, ces derniers mois, l'astronautique a pris beaucoup de place dans nos chroniques et cette fois, je vais revenir un peu plus à l'astronomie, mais on ne peut pas ignorer encore quelques actualités dans le domaine des lancements, des fusées et des missions spatiales. À commencer par le nouvel épisode du feuilleton des échecs répétés des lancements du Starship, le futur lanceur lourd de la société privée SpaceX d'Elon Musk, 4 fois plus puissant que son Falcon 9, utilisé actuellement pour propulser la capsule Crew Dragon et son équipage vers l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Comme je l'ai déjà dit ici, cette nouvelle fusée vise notamment à réaliser de futures missions habitées lunaires. Elle a la particularité de pouvoir se reposer en douceur, intégralement, et non partiellement comme le seul premier étage des Falcon 9, et elle possède des lignes assez futuristes, avec sa carrosserie, si je peux dire, étincelante, car totalement en acier inoxydable. Malheureusement, les tentatives de lancement de ces derniers mois sont une succession de ratés. Le prototype numéro 8 s'est écrasé au lieu d'atterrir en douceur après son lancement du 9 décembre dernier et une montée jusqu'à environ 12 km d'altitude. Le numéro 9 a connu un destin analogue le 2 février en montant jusqu'à 10 km d'altitude avant de revenir à son site d'atterrissage, mais la manœuvre finale de retournement pour la descente freinée par ses moteurs a échoué, provoquant son crash dans une violente explosion. J'en avais parlé la dernière fois, le 3 mars, en précisant que le 10e prototype, baptisé SN10, allait sans doute être lancé très prochainement car il était déjà en place sur son pas de tir. Je ne pouvais pas mieux dire car c'est le soir même qu'il a été lancé. Il est monté jusqu'à 10 km d'altitude puis est revenu se poser en douceur, la procédure d'allumage de ses moteurs ayant été modifiée depuis l'accident du SN9. Cette réussite était donc une grande satisfaction pour SpaceX. Mais malheureusement, il a explosé 10 minutes plus tard pour une raison inconnue à ce jour, la société n'ayant pas encore communiqué sur les causes de cet accident. Comme je le disais la dernière fois, cette succession d'échecs n'augure guère d'un respect du planning qui prévoyait des lancements avec équipage dès la fin de cette année. À propos des lanceurs lourds susceptibles d'être utilisés pour le futur programme lunaire habité Artemis de la NASA, celle-ci développe aussi sa propre fusée, baptisée SLS pour Space Launch System, aux caractéristiques très proches des Saturn V qui avaient permis la réussite du programme Apollo des années 1970. Je vous en avais parlé fin janvier à l'occasion d'un test au sol des 4 moteurs de son premier étage, simulant la première phase d'un décollage, mais qui avait échoué. Au lieu des 8 minutes de fonctionnement prévu, l'essai s'était interrompu au bout de seulement 1 minute et 22 secondes. La dernière fois, je vous avais annoncé que la NASA avait décidé de procéder à un second test avant d'envisager un premier lancement à vide du SLS. Eh bien, il a été réalisé le 18 mars dernier, et c'est une réussite cette fois. Les moteurs ont bien fonctionné pendant 8 minutes et 15 secondes comme prévu. On se dirige donc vers un premier lancement à vide, sans équipage, de cette grande fusée de 3000 tonnes et 106 mètres de haut. En principe, avant la fin de l'année, les éléments devront être acheminés dès le mois prochain au Centre spatial Kennedy en Floride pour y être assemblés.
Et est-ce que vous avez des nouvelles, Michel, concernant l'Europe et la France ?
Alors oui, la dernière fois, nous avions évoqué le début d'un recrutement par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, d'une nouvelle promotion de spationautes. Et j'avais pris l'exemple de Thomas Pesquet pour illustrer les compétences et qualités attendues des candidats. Il est prévu qu'il reparte avec la capsule Crew Dragon de SpaceX le 22 avril pour une mission de 6 mois baptisée Alpha à bord de l'ISS. Après une conférence de presse de la NASA le 1er mars de ce vol baptisé Crew 2, enfin Crew 2 je suppose en anglais, avec ses 3 collègues, les Américains Shane Kimbrough et Megan MacArthur, une femme qui commandera cet équipage, et le Japonais Akihiko Oshide, il a annoncé le 16 mars, lors d'une autre conférence de presse organisée par l'ESA, qu'il avait été désigné pour être commandant de bord de l'ISS pendant environ 1 mois à la fin de son séjour. Si cette responsabilité peut paraître limitée, car elle devient surtout importante en cas de crise à bord, elle est pourtant cruciale pour sa carrière, car cela peut le qualifier pour une future mission lunaire Artemis, selon les critères de la NASA, c'est-à-dire avoir fait 2 séjours à bord de l'ISS, et Thomas Pesquet y a déjà été 6 mois en 2016-2017, et avoir commandé l'équipage durant un de ces séjours. Si c'est la première fois qu'un Français occupera ce poste, il y a déjà eu 3 précédents européens. Le Belge Franck de Wim en 2009, l'Allemand Alexander Gertz en 2018 et l'Italien Luca Parmitano en 2020. À propos des autres spationautes de l'ESA, Thomas Pesquet doit être rejoint par l'Allemand Matthias Maurer lors du vol Crew 3 prévu l'automne prochain si le planning est respecté, ce qui devrait permettre la présence simultanée de 2 Européens à bord de l'ISS pendant quelques jours, avec peut-être une sortie extravéhiculaire conjointe.
Alors, quelles sont les autres missions de Thomas Pesquet, justement, à bord de l'ISS ?
Lors de sa conférence de presse, le Français a précisé quelles seraient les expériences qu'il doit mener pendant son séjour, et dont la plupart entrent dans le cadre de la préparation de futures missions lunaires ou martiennes. Au programme du domaine médical, DREAMS, une étude de la qualité du sommeil des astronautes en apesanteur, avec notamment la participation du CHU de Toulouse. Cerebral Aging, une observation du vieillissement accéléré du cerveau dans l'espace, qui sera réalisée sur des organoïdes, des sortes de petits cerveaux miniatures artificiels, fabriqués par le laboratoire Subbiotech, l'Institut supérieur des biotechnologies de Paris. Côté technologie, l'expérience pilote utilisera un casque de réalité virtuelle Oculus, modifié spécialement pour la micro-pesanteur, afin de piloter finement le bras robotisé de l'ISS. Alors que Telemac utilisera un dispositif à ultrasons, ressemblant bizarrement à un pommeau de douche, pour manipuler en apesanteur des petits objets sans les toucher, ce qui peut être très utile à bord d'un vaisseau spatial où tout semble flotter librement. Autre innovation qui concerne aussi la santé des astronautes, avec l'expérience Lumina, qui vise à remplacer par un dispositif à base de fibre optique les dosimètres classiques permettant de mesurer l'exposition des astronautes aux radiations, bien plus intenses dans l'espace que sur Terre. Cette technologie a été développée par le laboratoire Hubert-Curien de l'Université de Saint-Étienne, qui supervisera le test. Pour le volet éducation, 2 expériences proposées par des étudiants seront menées. Éclos, qui vise à réaliser une culture végétale en apesanteur, devant aboutir à l'éclosion d'une fleur, comme son nom l'indique. Projet proposé par une équipe réunissant des étudiants à Paris, Nantes, Toulouse et Montréal, et lauréate en 2019 de l'appel à projet Génération ISS du CNES, le Centre National des Études Spatiales. Autre lauréat de ce concours, Tetris, qui s'écrit avec 2 S comme ISS, faisant bien évidemment référence à un jeu vidéo très populaire, a été proposé par l'IUT Paul Sabatier de l'Université de Toulouse et répond à un appel à projet de la Fondation Catalyse de cette université en 2020. J'évoque ces appels à projets du CNES car ils pourraient donner des idées aux étudiants ou futurs étudiants qui nous écoutent. Tetris regroupe en fait 4 expériences de physique. L'une visant à vérifier un principe paradoxal dit « le démon de Maxwell ». Une autre, baptisée « café Mancy », doit comparer les formes produites par le séchage de gouttes de café en apesanteur avec celles obtenues sur Terre. Une troisième expérience doit étudier la diffusion d'une goutte dans un solvant, toujours en apesanteur. Et enfin, la quatrième, dite « figure de Chladni », doit observer les formes produites en 3 dimensions par des fines particules agitées par des ondes sonores, ce qui n'est possible de réaliser qu'en apesanteur, ou seulement en 2 dimensions sur Terre à cause de la gravité terrestre. Et pour finir, une expérience destinée aux juniors avec 2000 établissements scolaires français qui observeront la croissance de blobs en apesanteur, ces animaux unicellulaires, géants, étudiés par les biologistes depuis plusieurs années. En fait, leur véritable nom scientifique est Physarum polycephalum, et le surnom blob lui a été donné en référence à un film de science-fiction de série B des années 1950, en raison d'une certaine ressemblance avec la créature gélatineuse mise en scène avec force effets spéciaux approximatifs.
Et est-ce que vous avez quelques nouvelles des rovers posés sur Mars ?
Alors bien entendu, c'est le tout dernier, arrivé depuis peu sur la planète rouge, le 18 février pour être précis, qui retient l'attention, Persévérance. Comme je l'avais indiqué la dernière fois, il est dans la période d'environ 2 mois pendant laquelle on déploie et teste petit à petit ces différents instruments. Il nous a déjà envoyé pas mal de photos qu'on trouve facilement sur différents sites en ligne, notamment de la NASA, comme l'APOD, Astronomy Picture of the Day. Certaines sont prises avec la NAVCAM, caméra de navigation, perchée sur son mât plus de 2 mètres du sol, comme celle publiée par l'APOD du 6 mars montrant les traces laissées sur le sol par les roues du rover après son premier test de déplacement, ou un panorama complet à 360 degrés du site d'atterrissage le 9 mars. On incite même les internautes qui repéraient quelque chose d'intéressant sur les images à le signaler à la NASA, ce que je trouve personnellement un peu imprudent, vu les nombreux délires suscités déjà par les photos de Curiosity, où certains ont cru voir des lézards, des rats morts ou d'autres vestiges de maisons comme un robinet, par exemple. Le 5 mars, on a déployé et testé le bras robotique, ce qu'on peut voir sur une petite animation d'une séquence photo sur le site de la NASA. À la date du 13 mars, sur l'APOD toujours, on a une image produite par la caméra Supercam qui a pour la première fois tiré au laser sur une roche située à environ 3 mètres. Et nouveauté, on peut entendre les sons produits par les impacts enregistrés avec le microphone dont on a équipé pour la première fois un rover martien. Bon, c'est pas très spectaculaire, hein, c'est des petits tic-tic-tic, c'est le son du laser qui tape sur la roche. Ce même micro, qui nous avait déjà permis d'entendre pour la première fois le vent martien, seulement 4 jours après l'arrivée de la mission. Alors, ces sons ne sont pas très spectaculaires, mais il faut quand même penser qu'ils viennent de Mars, ce qui n'est pas courant. Et plus récemment, la NASA a publié un enregistrement brut des bruits produits par le rover en train de rouler à la surface de Mars, avec le grincement de ses suspensions et de ses roues métalliques. Je propose juste un petit extrait, car en réalité, l'enregistrement dure 16 minutes au total. À noter que l'espèce de grincement aigu qu'on entend n'a pas encore pu être identifié par les ingénieurs de la NASA. Il est peut-être dû à une interférence entre le micro et un autre équipement électronique du rover. La grande affaire des prochains jours est aussi une première avec le déploiement du drone Ingenuity, un hélicoptère à double rotor d'environ 2 kg. Ce sera la première fois qu'on fera voler un engin dans l'atmosphère d'une autre planète que la Terre. Il y a 10 jours, le 21 mars, la NASA a publié une photo où on le voit replié sous le rover, débarrassé de son bouclier de protection pour l'atterrissage qui gît au sol. Et le 23, une image de la NAVCAM montre la zone où le drone doit évoluer. Persévérance est maintenant en train de s'y rendre pour déposer Ingenuity, dont le premier vol pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine, à partir du 8 avril. Si tous les projecteurs des médias sont braqués sur cette nouvelle mission, il ne faut pas pour autant oublier Curiosity, ayant parcouru déjà plus de 24 km sur le sol martien depuis 2012. La NASA nous l'a rappelé en publiant sur l'APOD du 25 mars un nouveau panorama du site où il se trouve, montrant le mont Sharp au loin sous un ciel nuageux.
Et on revient à l'astronomie avec un astéroïde qui a encore frôlé la Terre.
Alors du moins, c'est ce qu'on a pu entendre dans la plupart des médias qui nous ont annoncé la veille le passage dans notre voisinage de l'astéroïde 2001 FO32, le dimanche 21 mars. Je rappelle que cette immatriculation permet de savoir qu'il a été découvert en 2001, pendant la deuxième quinzaine de mars, c'est ce que veut dire le F, et sauf erreur de calcul de ma part, que c'était le 815e découvert dans cette période, c'est le O32. Comme souvent de nos jours, il a été découvert par un système de surveillance automatique du ciel, en l'occurrence LINEAR. C'est un astéroïde appartenant au groupe des Apollons, basé ainsi avec le premier de ce type découvert en 1932, qui sont des géocroiseurs, c'est-à-dire que leur trajectoire autour du Soleil les amène à croiser l'orbite de la Terre. Sans vouloir inquiéter outre mesure nos auditeurs, on en connaît actuellement plus de 14 000. Pour autant, il ne faut pas craindre une collision de sitôt, car l'espace dans cette zone où ils circulent est très vaste, donc on ne les croise pas si souvent, et la plupart sont plutôt petits. Pour donner une idée, parmi eux, ceux qui portent un nom, souvent parce qu'ils sont relativement gros, de l'ordre du kilomètre ou plus, ne sont qu'au nombre de 81. Si on prend le cas de 2001 FO32, il ne ferait que dans les 500 mètres environ, une taille toujours difficile à estimer avec précision pour ces petits objets du système solaire. C'est-à-dire qu'en cas d'impact avec la Terre, il ne produirait que, si j'ose dire, un cratère d'environ 10 km de diamètre, soit 7 fois le fameux météore cratère qu'on peut voir en Arizona aux USA. Et donc une catastrophe à l'échelle d'une région ou d'un pays, mais pas d'un continent ou de la Terre entière. Lors de son passage du 21 mars, il n'y avait vraiment aucun risque puisqu'il ne s'est rapproché de la Terre qu'à environ 2 millions de kilomètres, soit plus de 5 fois la distance qui nous sépare de la Lune. Si les médias ont dit qu'il nous frôlait, il ne fallait pas le comprendre au sens strict, mais aux distances énormes de l'astronomie, par exemple à l'échelle du système solaire. Autre point sur lequel il me semble que les médias en ont fait un peu trop à propos de ce passage, c'est la possibilité d'observation de cet objet. Il était inutile de sortir les jumelles, car au plus proche, il a eu une magnitude de l'ordre de 12. Pardon. Je rappelle que plus le nombre est grand et plus la luminosité est faible, les étoiles les plus brillantes dessinant les constellations étant généralement autour de 1 ou 2 de magnitude. Donc 12, c'est pratiquement le plus faible qu'on peut voir dans un télescope amateur de 20 ou 30 cm de diamètre, comme un tout petit point. En plus, il était très difficile à suivre, car se déplaçait rapidement dans le ciel, puisqu'il était relativement proche de la Terre, parcourant environ 1 degré, soit la moitié de la largeur du pouce bras tendu, en fin de seconde. Passant, pour ceux qui connaissent le ciel d'été, de la base du Sagittaire à 9h le matin, au milieu du Capricorne à 21h. Et même pour ceux qui ne connaissent pas bien les constellations, je vais prendre un petit peu d'eau que m'amène Nicolas, merci.
Voilà, c'est pas les sons de Mars, mais voilà, on est en direct.
C'est les sons
voilà,
de
Michel.
La
gorge. Voilà, quelques instants. Hein,
c'est le réchauffement climatique, sûrement.
Voilà, donc on vous en prie, donc, merci à Nicolas.
J'étais en train de dire, pour ceux qui ne connaissent pas bien les constellations, Sagittaire et Capricorne rappellent les soirées d'été, deux constellations bien difficiles à voir en fin d'hiver, puisque se levant dans le ciel seulement vers 4h30 du matin, alors que l'astéroïde nous frôlait en pleine journée. Donc il était devenu nettement moins lumineux au moment où on aurait pu théoriquement essayer de l'observer sous nos latitudes. Autant dire que cette émission impossible pour nous est très périlleuse pour nos collègues de l'hémisphère sud. Son observation concernait surtout les grands observatoires qui espéraient en apprendre un peu plus au sujet de cet astéroïde en profitant de son rapprochement avec la Terre, ce qui ne devrait pas se reproduire avant une trentaine d'années, en 2052.
Alors parlez-nous de la trame de l'univers, Michel, donc Michel Favret avec nous pour cette chronique astro. Donc la trame de l'univers qui se dévoile un petit peu.
En effet, et on le doit au VLT, le Very Large Telescope de l'ESO, l'Observatoire européen du Sud, dont les instruments sont implantés au Chili. Cette observation a été réalisée avec MUSE, ou peut-être qu'on dit MUSE hein, à l'anglaise, pour Multi-Unit Spectroscopic Explorer. En français, ce serait explorateur spectroscopique multiple. Installé depuis 2014 sur le télescope numéro 4 du VLT, ou Yupan, c'est-à-dire Vénus dans le dialecte local, qui fait 8,20 m de diamètre, comme ses trois homologues de cet observatoire souvent considéré comme l'un des plus grands du monde. D'un aspect étrange, un peu comme une méduse à cause de l'enchevêtrement de ses tuyaux de refroidissement, maintenant la température très basse, MUSE est constitué de 24 spectrographes permettant d'observer une petite portion du ciel en trois dimensions en analysant certaines raies caractéristiques de l'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'univers, avec 92% des atomes. Je précise que bien sûr un télescope ne peut pas faire une image en 3D, mais que le système de mesure de MUSE permet de connaître la distance à laquelle se situent les objets, d'où la notion de profondeur de l'image. Il a été conçu par un consortium piloté par le Centre de recherche astrophysique de Lyon, ou CRAL, avec 6 autres grands centres de recherche. L'Observatoire de l'Aide aux Pays-Bas, le Laboratoire d'astrophysique de Toulouse-Tarbes, l'Institut d'astrophysique de l'Université Göttingen et l'Institut Leibniz d'astrophysique de Potsdam, tous les deux en Allemagne, l'Institut pour l'astronomie de l'École polytechnique fédérale de Zurich en Suisse et bien entendu l'ESO. On voit donc qu'il s'agit d'une réalisation complètement européenne. L'annonce faite par Roland Bacon du CRAL et son équipe dans un article paru dans la revue Astronomie en Astrophysics du 18 mars concerne la recherche d'une structure à grande échelle de l'univers prévue par les simulations numériques basées sur le modèle du Big Bang. Selon ces prédictions, sous l'effet de petites différences de densité dans le nuage d'hydrogène relativement homogène au départ, celui-ci doit s'organiser dans une sorte de toile constituée de filaments cosmiques au sein desquels peuvent se créer les galaxies et les étoiles. On avait déjà mis en évidence avant Muse la présence de grands nuages d'hydrogène intergalactique, mais c'était de manière indirecte par l'absorption de lumière qu'ils provoquent lorsqu'on observe des objets très lointains et très lumineux qu'on appelle quasars. Mais cela ne constitue pas une véritable image, puisque ne les révélait que ponctuellement. Pour illustrer cette façon de voir, on peut imaginer qu'on observe la nuit des lampes de poche lointaines dans une forêt et dont le faisceau serait masqué de-ci de-là par des troncs d'arbres. Cela révélerait bien la présence des arbres, mais cela ne permettrait pas de se faire une idée de la structure de la forêt.
Et c'est donc cette image que Muse a révélée ?
Oui, mais la réalisation d'une telle image nécessite une très longue observation, car ces filaments sont très peu lumineux. Fin 2019, une équipe japonaise de l'université de Tokyo avait déjà produit, grâce à Muse, une image révélant de tels filaments, mais d'une zone trop petite pour être représentative d'une structure plus globale. Même si elle était déjà située très loin de nous, à près de 12 milliards d'années-lumière. Et on peut comprendre que plus on observe loin, plus le champ de vision d'un instrument couvre une grande portion du cosmos. La nouvelle observation, réalisée par l'équipe de Roland Bacon, a nécessité 140 heures d'observation réparties sur 8 mois, tant cet instrument est demandé par les chercheurs. Dans une petite zone de la constellation du Fourneau, située dans l'hémisphère sud, elle révèle des zones d'une luminosité diffuse, organisées en filaments de millions d'années-lumière de long, comme prévu par les simulations, représentatives de la structure en mie de pain, c'est comme ça que dit Roland Bacon, de l'univers tel qu'il était dans sa jeunesse il y a environ 11 milliards d'années. Je rappelle que comme la lumière se propage dans l'espace à une vitesse limitée, bien que très grande, environ 300 000 km par seconde, plus on observe loin, plus on observe dans le passé. La surprise est venue de leur luminosité, environ trois fois plus importante que ce qu'on attendait. Il a donc fallu constater que le mécanisme d'émission de lumière par les atomes d'hydrogène qu'ils composent, faiblement éclairé par une sorte de luminosité globale de l'univers, pour faire simple, ne suffisait pas à expliquer leur intensité. En procédant à différentes simulations pour tester d'autres hypothèses sur l'origine de cette lumière, l'équipe est arrivée à la conclusion qu'il serait en fait éclairé par des milliards de galaxies naines qui pouvaient exister à cette époque, selon le modèle du Big Bang, ayant donné naissance par fusion successive aux grandes galaxies que nous observons à notre époque. Cette période de naissance des premières galaxies de l'univers est une étape clé pour comprendre son évolution jusqu'à nos jours, et donc on va continuer à essayer d'observer ces grandes structures de la toile cosmique plus globalement, c'est-à-dire sur des portions encore plus larges du cosmos, et plus finement en utilisant les capacités des futurs grands télescopes permettant de concentrer encore plus la faible lumière qu'elle nous envoie. Ce sont le JWST, un James Webb Space Telescope, de 6,50 m de diamètre, qui doit en principe être lancé le 31 octobre par une fusée Ariane 5 depuis Kourou, et surtout au sol avec le géant ILT, Extremely Large Telescope, de 39 mètres de diamètre, en cours de construction par l'ESO non loin du VLT, et qui devrait être remis en service en 2025. Dès 2026, il est prévu de l'équiper du successeur de Muse, baptisé Blue Muse, car il observera dans des longueurs d'onde plus courtes, donc dans le bleu, pour explorer une période un peu plus proche, il y a environ 10 milliards d'années, et sur un champ plus grand.
Allez, on est toujours en direct sur Eau de Radio, c'est la chronique astro de Michel Favret. Et Michel, vous allez aborder le sujet, le thème du mois, le Big Bang.
Voilà, avec cette dernière actualité sur les structures à grande échelle de l'univers, j'ai pensé intéressant de parler de ce modèle dont tout le monde connaît au moins le nom. Et à ma grande surprise, j'ai constaté que si nous l'avions déjà évoqué assez souvent, nous n'avions jamais encore traité complètement ce sujet depuis les six ans et demi qu'existe cette chronique mensuelle. Il est temps de pallier cette lacune. Avant d'essayer d'expliquer simplement le Big Bang, je voudrais tordre d'abord le cou à deux idées fausses qui sont largement répandues. Tout d'abord, le Big Bang n'est pas une explosion. Contrairement à ce que signifie cette expression anglaise, en français on dirait le grand boom, qu'on doit au physicien britannique Fred Hoyle, qu'il a utilisé pour la première fois le 28 mars 1949, lors d'une émission de radio de la BBC, pour se moquer de cette théorie à laquelle il n'adhérait pas. Une explosion, ce sont des objets éjectés violemment dans toutes les directions. Le Big Bang ne décrit pas cela, car les objets, dans le cas du Big Bang, ce sont des galaxies ou des amas de galaxies, ne se déplacent pas dans l'espace pour s'écarter les unes des autres. C'est l'espace qui grandit. L'image qui me paraît la plus représentative du phénomène, c'est celle du cake qu'on met au four. Les raisins sont les galaxies et la pâte, l'espace. Lors de la cuisson, la pâte gonfle et les raisins s'éloignent les uns des autres, mais ils ne se déplacent pas dans la pâte. Le Big Bang, ce n'est donc pas une explosion, mais une dilatation de l'espace. Du coup, on comprend qu'il n'y a pas de centre à ce phénomène, contrairement au lieu initial d'une explosion. Si je garde cette image du cake, la pâte gonfle partout, mais il n'y a pas de centre privilégié. On pourrait même dire que chaque raisin peut croire qu'il est au centre, car il voit tous les autres raisins s'éloigner de lui. C'est exactement ce que nous observons dans l'univers. À grande distance, toutes les galaxies semblent s'éloigner de nous. Autre chose que le Big Bang n'est pas, c'est l'histoire de la création de l'univers. Dans ce modèle, rien n'est créé, car tous les ingrédients étaient là au départ, mais tout se transforme progressivement. Pour reprendre toujours l'image du cake, même s'il gonfle pendant la cuisson, il n'y a pas de création de matière, mais seulement un changement de volume. Et si la pâte cuite ne ressemble pas du tout à la pâte crue qu'on a enfournée, ce sont des réactions physico-chimiques qui ont opéré, mais tous les ingrédients étaient déjà là au départ. Pour l'univers, c'est pareil. Tous les ingrédients nécessaires pour expliquer l'état dans lequel nous l'observons aujourd'hui étaient présents dès le départ. Le Big Bang ne nous explique en rien la création de l'univers, mais il nous raconte une histoire de l'univers, son évolution depuis un état très différent jusqu'à ce que nous connaissons aujourd'hui.
Alors Michel, justement, d'où vient cette théorie du Big Bang ?
La naissance du modèle du Big Bang vient, comme souvent en astronomie, de la rencontre entre la théorie et l'observation. Côté théorie, nous retrouvons une star de la physique souvent évoquée ici, Albert Einstein, et sa théorie de la relativité générale publiée en 1915 et dont nous avons fêté le centenaire en 2015. Après sa première théorie, appelée relativité restreinte, qui révolutionnait notre compréhension de l'espace et du temps pour expliquer le comportement de la lumière, il a travaillé pour inclure la gravité dans cette conception. La gravité, c'est cette interaction qui fait s'attirer mutuellement les objets massifs, comme l'avait déjà théorisé Isaac Newton à la fin du XVIIe siècle. Par exemple, la pomme qui tombe sur le sol car attirée par la Terre, ou la Lune qui orbite autour d'elle, ou les planètes autour du Soleil, et à plus grande échelle, comme on le sait aujourd'hui, les étoiles dans les galaxies ou les galaxies dans l'univers. La relativité générale permet d'écrire une équation qui décrit l'équilibre global de l'univers. Pour faire simple, entre la gravité qui aurait tendance à le contracter et la pression interne qui aurait tendance à le dilater. À cette grande échelle, l'univers étant considéré un peu comme un gaz. Mais Einstein, qu'on peut de ce point de vue considérer comme un homme du 19e siècle, concevait l'univers comme statique, ayant globalement eu toujours la même structure que nous le connaissons aujourd'hui. C'est là que la théorie se heurte à l'observation, car avec le plus grand télescope de l'époque, le Hooker de 2,50 m, inauguré en 1917 au Mont Palomar en Californie, l'astronome américain Edwin Hubble fait deux découvertes importantes. Tout d'abord, le fait qu'il existe de nombreuses galaxies dans l'univers, car je le rappelle, jusqu'en 1924, on pensait que l'univers se résumait à une seule galaxie, la Voie lactée. Mais en observant certaines étoiles variables, dites céphéides, dans ce qu'on appelait à l'époque des nébuleuses, comme la grande nébuleuse d'Andromède, il a pu calculer leur distance et montrer qu'elles étaient bien plus loin de nous que la taille de la Voie lactée, découvrant ainsi la grande galaxie d'Andromède, mais aussi d'un coup des milliers d'autres galaxies qu'on avait prises jusque-là pour des nébuleuses, c'est-à-dire de grands nuages de gaz dans notre Voie lactée. Mais cette découverte s'accompagne d'une autre tout aussi importante, car quelques années plus tard, en 1929, il utilise la spectroscopie pour analyser la lumière envoyée par ces galaxies et découvre ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. C'est-à-dire que pour toutes les galaxies assez lointaines, la lumière qu'elle nous envoie donne un spectre qui est décalé vers le rouge, traduisant le fait qu'elle s'éloigne de nous. C'est le même phénomène qu'on constate par le décalage vers un son plus grave, d'une sirène ou d'un bruit de moteur, d'un véhicule qui s'éloigne de nous, alors qu'il est plus aigu quand il s'approche. On peut l'entendre. Voilà, on en a tous fait l'expérience. Si on se souvient des raisins dans le cake, en train de gonfler, chacun voit toutes les autres s'éloigner de lui, et si on regarde de plus près, plus un autre raisin est loin, plus il semble s'éloigner vite, car il y a plus de pâtes, hein, d'espace quand on parle de l'univers, qui nous en séparent. Et c'est exactement ce qu'on constate l'astronome américain. Plus une galaxie est loin de nous, plus elle semble s'éloigner rapidement, ce qu'on appelle d'ailleurs la loi de Hubble pour lui rendre hommage. on venait de découvrir l'expansion de l'univers. Contrairement à Einstein, qui concevait un univers statique, cette réalité observationnelle va être intégrée dans le cadre de la relativité générale par d'autres physiciens, notamment le russe Alexandre Friedman et le belge Georges Lemaître, qui était par ailleurs un chanoine catholique, et décrivait un univers en expansion à partir d'un état très petit et chaud qu'il appelait atome primitif. Effectivement, si on rejoue à l'envers l'expansion de l'univers, comme un film qu'on rembobinerait, on comprend qu'il a dû commencer en étant très petit, donc forcément très dense et très chaud, puisque plus l'on comprime un gaz, plus il s'échauffe, comme on peut tous le constater en sentant monter la température de la pompe avec laquelle on gonfle les pneus de son vélo. Et incorporant à cette évolution les autres grandes découvertes de la physique du XXe siècle, concernant la structure de la matière, les atomes, les particules, la fusion nucléaire, une théorie s'est imposée progressivement pour expliquer l'évolution de l'univers depuis cet état très petit et très chaud jusqu'à l'immense espace peuplé de galaxies qu'on observe aujourd'hui. C'est le modèle du Big Bang.
Alors, qu'est-ce que nous raconte cette histoire de l'univers, Michel ?
Alors, pour être honnête, elle est très complexe et je n'en saisis pas toutes les subtilités, mais je vais essayer d'en faire un résumé sans entrer dans les détails et en vous la racontant dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire à l'envers par rapport aux découvertes qui, elles, sont parties de nos connaissances actuelles pour remonter petit à petit vers des états plus anciens de l'univers, donc de plus en plus étranges et différents de son observation actuelle. Voilà dans les grandes lignes ce que décrit le modèle du Big Bang. Au départ, ce qu'on peut situer à environ 13,8 milliards d'années en remontant le film de l'expansion, on peut imaginer un univers si petit et si chaud que la mécanique quantique, c'est-à-dire toutes nos connaissances sur les particules et la matière, ne laisse pas la possibilité à celle-ci d'exister. On peut donc se représenter l'univers comme une concentration énorme d'énergie à cette époque très reculée. De toute façon, au-delà d'une certaine température limite, appelée température de Planck, qui vaut dans les 140 000 milliards, 2 milliards, 2 milliards de degrés, nos théories physiques ne s'appliquent plus. On peut donc dire qu'au-delà d'un certain stade, il nous est actuellement impossible de décrire l'univers au tout début de son histoire. Mais notre physique permet de modéliser ce qui a pu se passer ensuite. La première grande évolution est appelée « inflation cosmique » par le physicien américain Alan Guth, qui l'a théorisé en 1979. C'est une étape très brève, une toute petite fraction de seconde, pendant laquelle l'univers connaît un changement radical en augmentant très brusquement de taille, passant d'une sorte de petit point initial à un volume immensément plus grand, même s'il était encore des milliards et des milliards de fois plus petit qu'aujourd'hui. Après cette sorte de crise de jeunesse assez spectaculaire, l'expansion de l'univers se poursuit selon les règles que nous connaissons aujourd'hui. Et comme le volume augmente, la température baisse jusqu'au moment où des particules peuvent enfin se former, car on sait que matière et énergie sont équivalentes selon la très célèbre formule d'Einstein, E égale mc2. On appelle cette étape la baryogenèse, c'est-à-dire la formation des baryons, terme utilisé pour décrire les particules dont est formée la matière, notamment les protons, les électrons et les neutrons. On se situe environ un millième de seconde après le début de l'histoire de l'univers, et encore à des températures énormes de milliards et milliards de degrés. L'expansion se poursuivant, donc la baisse de température aussi, on arrive entre une seconde et trois minutes à ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire la première formation des noyaux atomiques. Selon les conditions qui devaient régner alors, seuls les noyaux des éléments les plus légers peuvent se former. L'hydrogène, l'hélium et le lithium, qui sont encore aujourd'hui les éléments les plus abondants dans l'univers. La poursuite de l'évolution sous l'effet de l'expansion et du refroidissement est alors bien plus lente, puisque c'est environ 380 000 ans plus tard que se situe l'étape suivante. La température ayant suffisamment baissé, les noyaux sont en mesure de capturer les électrons qui circulaient jusque-là librement pour former enfin des atomes. C'est ce qu'on appelle la recombinaison. Et ça se produit dans un univers qui était environ 1000 fois plus chaud et un milliard de fois plus dense qu'aujourd'hui. Cette phrase est très importante, car cette capture des électrons permet enfin à la lumière de se propager, nous envoyant cette image primordiale de l'univers qu'on peut observer aujourd'hui et qu'on nomme le fond diffus cosmologique. L'expansion et le refroidissement se poursuivent alors jusqu'à nos jours, avec des étapes cruciales mais difficiles à dater exactement. La formation des premières galaxies et des premières étoiles, qu'on situe autour de 300 ou 400 millions d'années après le début. C'est très important pour nous car ce sont elles qui émettent la lumière nous permettant d'observer l'univers à différentes époques, puisque plus on observe loin, plus on observe dans le passé, comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes à propos de l'observation de la toile de l'univers avec Muse. Avant leur apparition, on parle d'âge sombre, car comme il n'y avait pas encore d'étoiles, l'univers restait totalement noir. Ce récapitulatif très succinct nous illustre donc à quel point ces observations récentes faites au VLT sont importantes pour mieux connaître cette étape du Big Bang, avec probablement la formation de très nombreuses galaxies naines qui auraient produit ensuite, par fusion successive, les grandes galaxies que nous connaissons aujourd'hui, comme la Voie lactée ou la grande galaxie d'Andromède.
Mais tout cela reste très théorique. Est-ce qu'on a des preuves de la justesse de ce modèle ?
Alors, comme toujours en science, ce sont les expériences qui viennent confirmer ou contredire les théories. Sauf qu'en astronomie, à part ce qu'on réalise dans le domaine de la matière et des particules, par exemple au CERN à Genève, il n'y a pas d'expérience possible sur l'univers, les galaxies ou les étoiles. Mais c'est l'observation qui vient confronter les théories à la réalité. Et pour conforter le modèle du Big Bang, il y a plusieurs observations. Pour commencer, l'expansion actuelle de l'univers, découverte en 1929 par Edwin Hubble, et qui permet de prévoir un univers beaucoup plus petit, plus dense et plus chaud si on rejoue le film à l'envers. Puis, en 1965, Alan Penzias et Robert Wilson observent presque par hasard la lumière primordiale émise par l'univers au moment de la recombinaison, et qui avait été prédite dès les années 1940 par le physicien d'origine russe George Gamow. Ils ont d'ailleurs reçu pour cela le prix Nobel de physique en 1978. Depuis lors, on mesure de plus en plus précisément ce fond diffus cosmologique avec des télescopes spatiaux spécialement conçus pour cela. Les Américains Cobb au début des années 90 et WMAP au début des années 2000. Puis l'Européen Planck de 2009 à 2018 qui nous a fourni les cartes les plus précises à ce jour, dans lesquelles les astronomes cherchent à déceler des indices pouvant apporter des informations fines sur l'état de l'univers à cette époque, hein, je rappelle 380 000 années après le début, notamment des différences de température et de densité qui pourraient expliquer la formation des premières galaxies, voire même révéler quelques informations sur les étapes antérieures du Big Bang, comme la mystérieuse inflation. Sur l'étape précédente, la nucléosynthèse primordiale, ce sont les abondances des différents éléments chimiques dans l'univers actuel qui collent particulièrement bien avec la théorie, avec une très forte prédominance de l'hydrogène, qui représente 92% des atomes et 75% de la masse de la matière dans l'univers, et de l'hélium pour 23% de la masse. Par ailleurs, l'étude des étoiles, et particulièrement du Soleil au premier chef, montre comment les processus de fusion nucléaire se déroulant en leur cœur expliquent la formation des éléments plus lourds, comme ceux qui constituent les planètes comme la Terre, jusqu'à ceux produits lors de leur destruction, comme le fer provenant des explosions de supernovae, et qu'on retrouve, par exemple, dans les globules rouges de notre sang. Car il ne faut pas oublier que cette longue histoire de l'univers décrite par le Big Bang a conduit à la formation des galaxies, des étoiles, jusqu'à notre système solaire et ses planètes, dont la Terre, sur laquelle a pu prospérer la vie, dont nous, les humains, qui semble malheureusement être en train de la rendre progressivement invivable à notre espèce et à beaucoup d'autres. Au final, c'est donc un récit qui pourrait bien mal se finir, du moins sur cette planète-ci, une parmi des milliards d'autres dans la Voie lactée.
Toujours en direct sur Eau de Radio, Michel Favre avec nous pour sa chronique astro numéro 73. Et là, Michel, vous allez nous parler du ciel du mois.
Oui, alors comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique « Ciel du mois » de la section astronomie de notre site web. Je rappelle www.constellationsetgalaxiesaupluriel.org pour voir les cartes du ciel correspondantes. On ne peut pas montrer de cartes à l'antenne. Et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour demain pour le mois d'avril. Avec les jours qui rallongent depuis le solstice d'hiver, mais surtout le passage à l'heure d'été dimanche dernier, les observateurs du ciel sont obligés de veiller bien plus tard. Et cela ne s'arrangera pas jusqu'à la fin juin. En ce moment, le soleil se couche vers 20h30 et la nuit arrive une heure plus tard, avec un ciel bien noir vers 22h. Fin avril, le coucher sera vers 21h et la nuit vers 22h15. Comme nous venons juste de quitter l'hiver, en début de nuit, le ciel se partage exactement en deux, avec à l'ouest les constellations typiques de cette saison, Orion, bien reconnaissable à sa silhouette humaine, entouré des autres constellations, dont les étoiles les plus brillantes forment la figure d'un grand G. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce sont le taureau, le cocher, les gémeaux, les petits et grands chiens. Et en même temps, ce sont les constellations typiques du printemps qui peuplent la moitié est du ciel, à commencer par le Lion, bien reconnaissable, situé juste sous les pattes de la Grande Ourse, et dont les étoiles qui forment la crinière et le poitrail dessinent comme une faucille dans le ciel, ou un point d'interrogation inversé pour ceux qui ne connaîtraient pas cet outil. Il est suivi par la Vierge, hein, autre constellation importante du printemps, encore en train de se lever en début nuit, et dont l'étoile la plus brillante, qui s'appelle Spica, est facile à identifier en suivant la courbe de la queue de la Grande Ourse, et en passant d'abord par une étoile plus brillante et jaunâtre, qui s'appelle Arcturus du Bouvier. Fin avril, en début nuit, le Lion sera plein sud et la Vierge complètement levée au sud-est, les constellations de l'hiver disparaissant avec Orion qui sera en train de se coucher. Côté planète, Mars est la seule bien visible en début de nuit, quittant progressivement les cornes du Taureau pour arriver dans les pieds des Gémeaux. Elle se couche actuellement vers 2h du matin, 1h30 à la fin du mois d'avril. Pas plus lumineuse qu'une étoile brillante, elle est bien reconnaissable à sa couleur orangée. Mercure et Vénus ont disparu du ciel matinal et ne réapparaîtront le soir qu'en mai. On ne les verra pas du tout dans le mois d'avril. Ce sont Jupiter et Saturne qu'on peut voir le matin. Jupiter est très basse dans les lueurs de l'aube, se levant seulement 1h30 avant le soleil. Ce sera 2h30 à la fin avril. Saturne le précède nettement en se levant actuellement vers 5h30 et ce sera 3h30 à la fin avril. Il y a donc peu de conjonctions ce prochain mois. Ça commencera le matin du mardi 6, où le croissant de lune sera juste sous Saturne, à environ la largeur de 2 doigts bras tendus, formant un triangle avec Jupiter qui est plus à l'est. Et le lendemain matin, le mercredi 7, le triangle sera inversé avec le croissant de lune situé cette fois sous Jupiter. Et c'est le soir du samedi 17 que le croissant de lune sera le plus proche de Mars, à environ la largeur du pouce bras tendu. Et voilà tout ce que je pouvais dire du ciel d'avril, en attendant notre prochaine chronique, en principe le mercredi 28, sans savoir ce que nous réservent les possibles décisions sur la crise sanitaire qui semble s'annoncer.
Voilà, on aura quelques éléments de réponse ce soir. Alors Michel, il nous reste juste quelques instants. Donc avant de se retrouver le mois prochain, hein, pour la prochaine chronique astro, on espère en présentiel, mais ça on verra ce soir, ou s'il y a d'autres mesures et prérogatives sanitaires, juste nous rappeler quelques infos sur l'association, voilà, même si on connaît le destin de l'association, et puis surtout rappeler qu'on peut venir et entendre
la défunte association.
Voilà, je savais pas comment le dire, non, mais vous faites toujours vivre le site internet, voilà, hein, sur ça, l'actualité, les chroniques, etc.
L'association elle est officiellement en train de disparaître, puisque ces derniers jours j'ai fait des démarches administratives pour ça. Mais dans les décisions prises par l'Assemblée générale extraordinaire qui a décidé la dissolution, il était prévu que je continue à maintenir à mon compte, hein, si je peux dire, le site web www.constellations et galaxies, et notamment pour la rubrique Le ciel du mois, que je mets à jour chaque mois pour donner des cartes du ciel et parler des différents événements, si on peut dire. Hein, il n'y a pas tous les jours des éclipses, des choses bien sûr, comme ouais. Ça, souvent sont simplement des conjonctions ou des périodes où il y a particulièrement d'étoiles filantes, des choses comme ça. Il y a un peu plus d'informations sur le site que ce que je fais à l'antenne. Et dans la même rubrique astronomie, hein, dans le menu du site web, on trouve aussi les fameuses chroniques O2 Radio, puisque à chaque fois je récupère l'enregistrement de l'émission et je la mets en ligne et on a tout l'historique avec une liste qui donne un peu les sujets abordés à chaque fois, ce qui permet, je dirais, aux auditeurs qui seraient intéressés d'aller picorer s'ils sont intéressés par un sujet ou par un autre.
Voilà, il faudra aller picorer. Alors, il nous reste juste quelques instants. Alors, comme le timing est un petit peu serré, on n'a pas pu entendre le générique de la chronique. Nous envoyez pas Michel, mais on se voit...
On le fera le mois prochain, puisqu'il y a, dans le générique, il y a Thomas Pesquet, et il sera parti pour l'ISS, normalement, une semaine avant.
Donc, rendez-vous le 28 avril prochain, on espère en présentiel, mais on s'adaptera, bien sûr, aux nouvelles normes sanitaires, s'il y a des changements. Certains changements dont on pourrait parler bien sûr ce soir avec l'allocution du président de la République. Allez, un grand merci à vous Michel.